Info, le journal
avec MCM,
présenté par Cédric Valax.
Et non, c'est Antoine Samoyau pour le journal Les Titres. Bonjour Antoine.
Voilà, alors déjà, on donne pas mon nom et on coupe mon micro, bravo. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Le nucléaire à nouveau sur le devant de la scène médiatique. Ce week-end, l'église protestante maori a rendu les conclusions de son 132e synode. L'église envisage de poursuivre l'État français devant les instances onusiennes. Une décision historique pour Oscar Temaru, une occasion de railler Édouard Fritt pour Gaston Flosse. Et ce matin, c'est le haut-commissaire qui réagit. Il estime, je cite, que l'outrance est toujours mauvaise conseillère. Le nouveau contre-amiral Denis Bertrand prend ses fonctions ce matin. Il remplace Bernard-Antoine Moriot de Lille et le nouvel officier a déjà connu la Polynésie, embarqué sur le Dumont-Durville dans les années 80. Enfin, c'est une nouveauté pour cette rentrée. Chaque midi, Radio 1 consacrera la deuxième partie du journal au décryptage de l'actualité à travers l'interview d'un invité en studio. Ce midi, c'est le vice-président du pays, Nui Holloré, qui inaugure cette nouvelle formule. On parlera de la situation économique du Fénois. Où en sommes-nous? Est-ce que tout va si bien que cela? Et c'est promis, on évite l'indigestion de chiffres avant de passer à table. À tout de suite.
Les peintures de la terre. Le plus grand choix de ce que tu aimes, tu le trouves chez MCM.
Et on démarre avec le sujet du jour et cette déclaration forte de l'église protestante sur le nucléaire.
Le 132e synode de l'église protestante maoïse s'est achevé hier à Papeno sur une nouvelle prise de position de l'église contre les conséquences des essais nucléaires en Polynésie. Dans son communiqué final, l'église affirme, je cite, que l'ensemble des actes graves et fautifs perpétrés par l'État français pourraient être qualifiés de crimes contre l'humanité. Et le communiqué poursuit, le Conseil supérieur envisage de poursuivre l'État français devant l'Organisation des Nations Unies. Écoutez le président de l'église protestante Aroanui Marea au micro de Lucie Rabréau dimanche.
J'entends bien que le président de la République a dit un mot par rapport à cela. Mais ce n'est que symbolique. C'est la France qui doit prendre sa responsabilité parce que nous y avons contribué à ce que aussi la France puisse assurer sa défense basée sur la dissuasion. Mais à quel prix ?
Et les réactions politiques ne se sont pas faites attendre. Hier, pour Oscar Temaru, c'est une décision historique, vous l'avez entendu ce matin dans nos journaux. Pour Gaston Flosse, c'est surtout une occasion de railler le prochain déplacement du président Édouard Fritt à l'ONU. Édouard Fritt qui, pour l'heure, n'a pas réagi à cette information.
En revanche, le haut-commissaire s'est fendu d'un communiqué ce matin.
René Bidal qui a signé un communiqué de presse dans lequel il conteste, je cite, le fondement juridique d'un dépôt de plainte contre l'État français. Il affirme, je cite à nouveau, que l'outrance est toujours mauvaise conseillère. René Bidal qui rappelle également les engagements de François Hollande, notamment pour modifier le décret d'application de la loi Morin, et qui conclut en appelant à l'apaisement, en indiquant, le sujet des essais nucléaires est trop sensible pour ne pas inciter ceux qui en parlent à mesurer le choix des mots.
Et dans l'actualité du jour également, le nouveau Comsup a pris ses fonctions ce matin.
Denis Bertrand est le nouveau contre-amiral, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française. Il succède à Bernard-Antoine Moriot de Lille. La cérémonie de prise de fonction a eu lieu ce matin à Faa sur le site du groupement aéronautique militaire. Denis Bertrand qui est déjà passé par la Polynésie, je vous le disais, c'était entre 88 et 89 lorsqu'il servait comme officier d'opération sur le Dumont-Durville. Le contre-amiral qui est passé par le renseignement, les relations internationales et les ressources humaines. Il était d'ailleurs depuis 2014 sous-directeur chargé de la gestion du personnel au sein de la direction du personnel militaire de la marine. Enfin, pour la petite histoire, l'homme est bourguignon, amateur de rugby et père de 6 enfants, rien que ça.
Et puis fait divers à présent avec ce nouvel accident de chasse sous-marine ce week-end sur l'île Sœur.
Effectivement, ça s'est passé très tôt samedi matin. Deux frères étaient partis pour une chasse sous-marine dans le secteur de la passe de Tautoy, situé au nord de Moréa. Ce sont les pompiers de l'île qui ont alerté le MRCC de la disparition d'un des deux hommes. C'est son frère qui l'avait perdu vue. Et ce sont les pompiers également qui ont finalement trouvé le corps sans vie du chasseur, localisé depuis la surface par son phare de plongée qui était resté allumé.
Et on revient à présent sur la vente aux enchères des navires de TNR ce week-end.
Et oui, TNR, c'est la SEM Taitini Ravaï, chargée dans les années 2000 d'acheter des thoniers pour les pêcheurs locaux. Un gaspillage d'argent plusieurs fois dénoncé par la Chambre territoriale des comptes. La société Taitini Ravaï avait été placée en liquidation judiciaire par le pays l'année dernière. Et ce week-end, les 8 derniers bateaux de la société ont été mis aux enchères. Seulement 4 ont été vendus et encore au prix du lancement des enchères, c'est-à-dire à 1 million de francs chacun. Le directeur de Taitini Pêche, Daniel Siu, est l'un des acquéreurs. Il n'était même pas sûr d'avoir fait une bonne affaire, écoutez.
Pour mettre en état, j'ai estimé pour chaque bateau, il faut environ 30 à 40 millions. Ça veut dire que acheter le bateau, c'est rien. C'est ce qu'il faut mettre derrière pour les remettre en état. Et donc, on a estimé qu'il fallait cette somme-là pour que ces bateaux tournent bien.
Et je vous rappelle que ces navires avaient été achetés à l'époque entre 140 et 150 millions de francs pièces. On est donc assez loin du compte.
On marque une courte pause dans ce journal et on revient avec une nouveauté, c'est notre invité.
Radio 1, premier sur l'info.
Et on reprend ce journal avec notre nouveau rendez-vous. Chaque midi, un invité pour décrypter l'info. Et pour la première fois, on reçoit le vice-président du pays.
Radio 1, premier sur l'info.
L'invité. Je vous le disais en titre, à partir de cette rentrée, chaque midi, nous recevons un invité pour décrypter l'actualité. Et on a mis la barre haute ce midi pour vous faire avaler les chiffres de l'économie. C'est Nui Haoloré qui nous a rejoint en studio, vice-président en charge du budget et des finances, mais également sénateur de Polynésie. Monsieur Loré, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a beaucoup parlé économie ces derniers jours, notamment avec ce qu'on appelle les comptes rapides du sérum. On a donc appris que la Polynésie connaissait une deuxième année de croissance positive en 2015. Une question pour commencer. En métropole, les chiffres de la croissance sont connus quasiment en temps réel. En Polynésie, nous venons d'avoir ceux de 2015. Pourquoi est-ce qu'il y a ce retard ?
En métropole, ce sont des chiffres qui sont publiés trimestriellement. Donc ça concerne l'évolution trimestrielle. Là, on a les comptes annuels. Il y a encore 3 ou 4 ans de cela, on était à un différentiel de l'ordre de 3 à 4 années. Maintenant, c'est 6 mois. Donc ça s'est bien accéléré depuis cette période.
Voilà. Et comment ça se fait, en fait, par quel mécanisme on peut aujourd'hui avoir les chiffres de l'année dernière ? C'est des projections qui sont faites ?
Voilà, ce sont des projections qui sont pas loin d'être définitives. Donc les chiffres qui concernent l'investissement public, l'investissement privé, la consommation des ménages. Donc on a des agrégats qui sont réalisés maintenant beaucoup plus rapidement avec l'IOM, l'AFD et l'Institut de statistique de la Polynésie française. Donc on a ces chiffres maintenant avec un décalage seulement de 7 mois contre plusieurs années il y a quelques temps.
Et c'est utile justement maintenant d'avoir ces chiffres plus rapidement. Ça vous permet en tout cas vous au niveau du pays de faire vos calculs un peu plus vite.
C'est un outil de pilotage économique et financier qu'on utilise effectivement. Là on est dans la construction du budget primitif de 2017. On commence à mouliner les chiffres et les résultats sont effectivement bons. Ils étaient bons en 2014, ils sont bons en 2015, ce qui va donner plus de capacité au gouvernement pour financer les politiques sectorielles.
Alors, est-ce qu'on peut expliquer exactement ce qu'on mesure quand on parle de croissance ?
On mesure la croissance du produit intérieur brut, donc avec une évolution qui était positive en 2014, 1,8%, qui est positive encore en 2015, 1,7%. Et on le voit surtout, on voit un rebond de l'investissement. L'investissement public, on l'avait constaté en 2014. Et en 2015, on constate que l'investissement privé rejoint aussi cette évolution positive. Et aussi, pour la première fois depuis 2007, on a une augmentation du pouvoir d'achat des ménages et de la consommation des ménages, qui est aussi extrêmement positif.
Alors, vous en parliez depuis 2007, parce qu'il faut le mettre en perspective, ce chiffre. On vient d'une période de crise qui était assez longue, notamment depuis 2008. On avait une croissance qui était négative, c'est bien ça ?
Depuis 2007. Et pour la première fois, on a deux années consécutives de progression positive du PIB, 2014 et 2015. C'est donc effectivement une reprise économique. Des éléments qui sont extrêmement positifs, comme je l'ai indiqué, sur l'investissement privé. C'est la première fois en 2015 qu'on a une progression de plus de 4 milliards. Sur la consommation des ménages, c'était très attendu, effectivement, dans un contexte où il n'y a pas eu d'augmentation d'impôts et dans un contexte où le pays aussi a réduit son endettement, ce qui dégage beaucoup plus de ressources pour financer. Quand je parlais de dépenses sectorielles, c'est les dépenses économiques, c'est les dépenses de relance, c'est les dépenses concernant l'investissement, le soutien à l'investissement, ce qui va nous permettre d'avoir encore plus de marge de manœuvre pour l'exercice 2017.
Alors, c'est ce qui explique un peu les chiffres de la relance, mais est-ce qu'on peut se satisfaire aujourd'hui de ce chiffre ? On le rappelle, hein, vous l'avez dit, 1,1%, je pense que c'est cela, oui, en 2015 de croissance. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire ? Est-ce qu'on doit viser haut ? Qu'est-ce qu'on doit viser exactement pour avoir une économie qui soit convenable ?
On doit toujours viser plus haut. Là, ces chiffres sont effectivement positifs. Moi, je les prends positivement. Par contre, on a une croissance de l'emploi qui reste encore insuffisante. Pour la première fois en 2015, on a une progression de la masse salariale. C'était la première fois depuis 2007, donc ça fait quasiment 8 ans qu'on était dans une période de déclin. C'est insuffisant parce que notre économie ne crée pas assez d'emplois. Même si l'investissement privé a repris en 2015, même si l'investissement public a repris déjà depuis 2014, mais ça reste encore insuffisant. Le vrai problème de la Polynésie, mais comme de beaucoup d'États dans le monde, c'est la création d'emplois. Et on a une création d'emplois qui est rendue difficile parce que le coût de la protection sociale est très élevé en Polynésie et donc empêche qu'il y ait davantage de création d'emplois.
Et alors comment on fait justement pour relancer la croissance, pour créer l'emploi? C'est quoi votre feuille de route un petit peu pour ces prochains mois, ces prochaines années?
Alors, on a commencé à le faire dès 2014 en injectant quasiment le double en matière d'investissement public de ce qui avait été fait en 2012 et en 2013. On va continuer sur cette voie en augmentant aussi les dépenses en matière de soutien à l'investissement privé, au travers notamment de la défiscalisation, au travers du logement social aussi, parce que c'est un secteur qui est extrêmement créateur d'emplois, au-delà du besoin en logement qui existe depuis plusieurs années en Polynésie. Et nous allons devoir arbitrer pour la préparation du budget 2017 sur la base de ressources qui sont autrement plus importantes qu'elles ne l'étaient l'année dernière et l'année précédente. Ce qui va donner la possibilité à chaque ministre d'intervenir de manière beaucoup plus massive dans l'économie polynésienne.
Quand on vous entend, on entend beaucoup parler d'injection d'argent public. Encore une fois, c'est ce qu'on a fait pendant des années en Polynésie. Est-ce que c'est vraiment le seul salut de la Polynésie, en fait, pour son économie, de passer par des investissements, de l'intervention du public?
C'est une petite économie quand même, hein, 270 000 habitants. Donc on souhaiterait que l'essentiel du soutien économique vienne du secteur privé, mais ça n'est jamais totalement possible. On a réinitié un surplus d'activité en 2014 qui était assez important, et on constate en 2015 que les entreprises privées viennent à la charge aussi, avec une augmentation de plus de 4 milliards de l'investissement privé. Mais on est toujours en recul par rapport aux chiffres qui existaient, qui étaient là en 2006-2007. Il y a toujours un manque d'investissement privé de l'ordre de 15 à 20 milliards chaque année, et un manque de 5 à 7 milliards d'investissements publics chaque année pour retrouver le niveau d'investissement que l'on connaissait en 2006-2007. Donc on est sur cette voie, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, dans le collectif budgétaire qui a été voté il y a un peu plus de 2 mois, a prévu un plan d'investissement exceptionnel avec un certain nombre de secteurs économiques qui seront particulièrement bien servis.
Alors on va changer un petit peu de sujet, on va parler de la note de Standard & Poor's qui a été relevée à un niveau triple B moins, on en a beaucoup parlé. Cette note, elle permet d'avoir des taux d'intérêt plus avantageux, ça vous l'avez dit. Tout récemment, vous avez signé un prêt d'1 milliard de francs à la Socredo, et là je vous cite, tout en poursuivant la politique de désendettement du pays. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de signer des prêts d'un côté et d'essayer de désendetter le pays de l'autre?
On a toujours besoin de financer nos investissements. En 2013-2014, le niveau d'endettement annuel était de l'ordre de 13 à 14 milliards. On a choisi de réduire ce niveau d'endettement dès 2015, puisqu'on a plafonné à 8 milliards de demandes de crédit sur l'année. Pour l'exercice 2016, c'est à peu près au même niveau, 7,6 milliards. Donc c'est un choix du pays de réduire progressivement l'appel au financement extérieur. Dans le même temps, vous l'avez dit, le fait que nous ayons une meilleure note nous permet de mieux négocier les taux d'intérêt, et surtout, ça nous permet de donner à l'extérieur de la Polynésie une bonne image aux investisseurs, et finalement de stimuler l'investissement extérieur en Polynésie.
À quel niveau est-ce qu'il faudrait qu'on arrive justement d'endettement de la Polynésie pour avoir quelque chose de convenable?
À peu près à ce niveau, 7-8 milliards chaque année, parce qu'au-delà de ces 7-8 milliards d'endettement supplémentaire chaque année, nous désendettons à hauteur de 9 milliards 2, et parallèlement à ça, nous avons un désendettement qui se fait sur les emprunts obligataires, qui sont les rembourses en une fois en 2021 et 2022, et là nous mettons de côté à peu près 900 millions chaque année. Donc le niveau de désendettement qui a été acté en 2015 est le bon, me semble-t-il.
Donc je résume, le but c'est d'avoir 8 milliards d'endettement chaque année, de rembourser un peu plus de 9 milliards chaque année aussi, puis d'arriver donc du coup à purer totalement en fait le stock de dette de la Polynésie.
Alors, ça peut tellement de sens de ne plus avoir de dette, parce que c'est tout à fait normal pour des acteurs économiques importants comme une collectivité d'avoir un certain niveau d'endettement pour accélérer le processus d'investissement. Mais si nous tombons aux alentours de 80 à 82 milliards d'endettement à la fin de la prochaine mandature, on sera à un niveau extrêmement faible. Si on rapporte le niveau d'endettement de la Polynésie à son PIB, puisque c'est l'outil de mesure qui est utilisé généralement, nous avons un endettement qui est de l'ordre de 18 à 19%. Si je prends le cas de la métropole, c'est à peu près 97%, le Japon plus de 200%. Donc on a un niveau structurel d'endettement qui est relativement bas, ce qui ne veut pas dire que nous remboursons pas beaucoup chaque année. 9 milliards d'euros en remboursement capital et quasiment 4 milliards d'intérêts, c'est ce que nous souhaitons faire baisser.
Par rapport à un budget qui est de combien, on rappelle?
Un budget qui est aux alentours de 110 milliards à peu près, avec près de 90 milliards de recettes fiscales. Donc c'est quand même un niveau de remboursement qui n'est pas négligeable.
Qui est un peu moins de 10% du budget, quoi.
Sur le total capital et intérêts, ça nous fait à peu près 13 milliards de remboursements chaque année.
Très bien. Sortons de l'économie pour terminer cette interview. L'année prochaine, la loi sur le cumul des mandats vous impose de quitter votre poste au gouvernement. Vous l'avez annoncé, vous devez choisir entre votre poste de sénateur ou de vice-président. Vous avez annoncé donc votre départ du gouvernement pour rester sénateur. Est-ce que vous savez à quelle période vous allez quitter le gouvernement, Fritsch ?
C'est le président qui le décidera.
Mais jusqu'à quelle date est-ce que vous êtes obligé avant quelle date, pardon, vous ne pouvez pas rester ?
Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui souhaitent me voir partir le plus rapidement possible, mais encore une fois, c'est le président qui le décidera.
Donc c'est on le rappelle, hein, parce qu'il y a une loi quand même qui s'applique, c'est ça que je voulais vous dire, c'est en septembre.
Pour l'Assemblée nationale, c'est juin l'année prochaine, c'est-à-dire au renouvellement de l'Assemblée nationale, et pour le Sénat, c'est septembre 2017, au renouvellement partiel de cette Assemblée.
Donc au maximum jusqu'en septembre 2017, est-ce que vous avez une idée de votre successeur ?
Je sais qu'il y en a beaucoup qui envisagent ce poste.
Il y a des noms ?
Je ne les ai pas en tête, là.
Des gens du gouvernement, par exemple ?
Je ne les ai pas en tête.
Merci beaucoup, Noé Hauler, d'avoir accepté notre invitation.
Merci
ce midi. On a parlé économie, j'espère qu'on a été assez clair pour tout le monde. En attendant, il est 12h16.